France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors dans la série C'est original, l'une des banques de sperme chinoises a édicté un nouveau règlement, puisque les donneurs doivent désormais, je cite, défendre le rôle dirigeant du parti, faire preuve de loyauté envers la cause du parti et être des citoyens honnêtes, respectueux de la loi et libres de tout problème politique. En gros, avoir une semence engagée. Alors bon, dans ce cas-là, que faire si un spermatozoïde défend les droits de l'homme? En tout cas, le monde moderne pose bien des questions, donc à vos stéthoscopes, messieurs. Et il se pose également beaucoup de questions, mais seulement autour de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la journaliste Aude Rossigneux. Bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Également le communicant Jacques Isabello. Bonsoir.
Vous êtes Mathieu.
Également cofondateur de Corioling. Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
De West France. Mathieu. Et Charlotte Dornelas, bonsoir.
Bonsoir.
De Valeurs Actuelles. Et ce soir, Syrie, la réponse à Bachar. Macron, bientôt animateur télé. SNCF. Arrêt de quelques jours à l'Assemblée nationale, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. 2500 militaires, des gaz lacrymogènes, des tractopelles, de la matraque. Oui, l'évacuation du site de Notre-Dame-des-Landes a donc commencé ce matin à 6h, sans faire de détails, avec une arme secrète du côté des forces de l'ordre, des huissiers. Et oui, ils sont là pour constater les expulsions et les infractions aux décrets préfectoraux. Et quand vous prenez un bataillon d'huissiers à 6h du matin, impossible de résister. En face, il serait 250 à ne pas avoir quitté les lieux. Après l'abandon du projet d'aéroport, l'État avait laissé jusqu'au 31 mars aux ZADIS pour faire connaître leur projet agricole individuel. Mais beaucoup ont refusé, préférant une régularisation collective. Si la quasi-totalité des personnes présentes n'ont pas effectué ces démarches, la moitié en fait est visée par l'expulsion. Les forces de l'ordre délogent en priorité les ZADIS les plus radicaux. Une opération délicate pour le gouvernement, puisqu'elle va durer quelques jours et les risques de dérapage sont toujours présents. Une action de l'ordre devenue politique, puisque certains responsables regrettent la méthode. C'est le cas du député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot.
Je regrette cette précipitation du gouvernement. Le gouvernement a été exemplaire depuis le début, avec l'abandon du projet, une logique d'apaisement sur place, parce qu'on sait qu'il y a toujours le risque de cristallisation de violence, et puis la mise en place d'un processus de concertation. Quand des personnes ont été pendant des années en résistance, imaginez que en quelques semaines, il y ait un retournement complet d'imaginaire, de logique collective, c'était difficile.
Voilà, Yannick Jadot, ce matin sur Public Sénat, Stéphane Vernet, c'est de la précipitation de la part du gouvernement ?
Je ne sais pas si on peut appeler ça de la précipitation, parce que moi je vous rappelle que avant même que le rapport soit remis, le rapport qui a mis fin en fait au projet, avant même que le rapport soit conclu, de toute façon le gouvernement avait dit, quelle que soit la décision, on évacuera. On évacuera la ZAD. Donc ça, c'était dès l'automne. Ça a été redit au moment où le rapport a été remis début janvier. Et il y a eu une marche qui a été prise, qui consistait à dire on ne procédera à aucune expulsion avant la fin de la trêve hivernale, le 31 mars. Donc il y a eu du temps qui a été donné. Et en plus, dans cette histoire, le gouvernement n'a pas dit on va évacuer tout le monde. Ils ont dit ne devront rester après la fin de la trêve hivernale que les personnes qui ont un titre de propriété pour les terrains occupés. Et ils leur ont laissé le temps de s'organiser, de se préparer, de monter des projets collectifs. Ouais. Il y a quand même eu du temps de donner. Alors, est-ce que c'est pas suffisant? Le problème, c'est qu'à un moment, comme le gouvernement s'est engagé, il en va de sa crédibilité. C'est-à-dire que la date du 31 mars, elle a été dite, redite, re-redite à plusieurs reprises. Si à l'arrivée, au bout du bout, on avait un gouvernement qui dit bon bah finalement, vous avez raison, il vous faut encore un peu de temps, on va vous laisser 6 mois.
Oui,
ça passe plus quoi. Il y a un moment, bah la date, l'heure c'est l'heure quoi. Et c'était ce matin.
Aude Rossigneux, c'était possible de faire autrement, justement pour le gouvernement, de dire finalement de laisser du temps, c'était apparaître plus faible. Là aujourd'hui, il montre les muscles.
Oui, bah ils montrent les muscles, mais ils montrent les muscles un peu partout. On l'a vu encore aujourd'hui. Donc ça, c'est en ce moment, ils sont dans une forme de dialogue social qui est d'un type assez nouveau. Moi, je trouve c'est intéressant quand même ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes parce que d'abord, je trouve quand même c'est un peu démesuré. On peut qu'ils puissent pas faire autrement, ils peuvent peut-être pas faire autrement. Mais enfin, 2500 types avec des blindés, alors qu'il y a 250 zadistes, peut-être on peut quand même y aller mollo. On n'est pas obligé non plus de la jouer. On monte tout de suite nos gros biscottos pour montrer de quoi on est capable. Bon. je trouve qu'en termes de dialogue social, c'est pas génial en termes de com, premièrement. Deuxièmement, il y a des choses intéressantes qui sont passées à Notre-Dame-des-Landes. Après, on peut trouver que c'est idéaliste, tout ce qu'on veut, etc. Mais l'idée d'une gestion collective des terres, qu'est-ce que vont devenir toutes ces terres agricoles qui existent. Elles existent depuis longtemps. Elles sont cultivées, elles sont mises en valeur. C'est de l'agriculture bio, durable, ça. Il y a des emplois, donc il y a toute cette question qui va se poser après.
Après, oui, Charlotte Dornelas, aujourd'hui, le gouvernement, est-ce qu'il a répondu aussi à ceux qui les accusaient d'avoir cédé aux zadistes avec l'abandon du projet d'aéroport ?
Bien sûr qu'ils répondent, mais parce que, vous l'avez rappelé, au-delà de la question de l'aéroport, de toute façon, l'évacuation des zadistes était prévue. Donc moi, c'est surtout les mots qui sont utilisés qui me font un peu halluciner. J'ai l'impression qu'on se moque vraiment du monde. Précipitation, pas du tout. Ça fait, et ils le rappellent eux-mêmes, des années et des années que ce projet est en question, que l'évacuation avait déjà été tentée, qu'elle avait été ratée. Après, quand on nous parle d'apaisement, ou que vous dites, finalement, ils montrent la force en envoyant 2500 personnes, on a vu les rapports de gendarmerie qui montraient qu'il y avait des pièges qui étaient tendus et des pièges qui étaient pris des soldats au Vietnam quand même, donc c'était pas pour rire. Il y a des cocktails Molotov qui ont été retrouvés, qui ont même été jetés cet après-midi. Enfin, il y en a qui prévoyaient la guerre. L'apaisement, il n'est pas seulement non voulu du côté du gouvernement. Il y a une réponse, et non, ils n'avaient pas le choix pour évacuer une ZAD. On sait très bien comment ça se passe. Ça se passe toujours comme ça. Il n'y a pas eu d'accident aujourd'hui, donc c'est plutôt que les forces de l'ordre, a priori, avaient bien préparé leur intervention.
On sait quand même pas tout non plus, parce que les journalistes n'ont pas tellement eu accès à ce qui s'est passé aussi. Oui, c'est quand même le deuxième effet qui se coule.
Je pense qu'on leur essaie quand même. Les zadistes ont fait je ne sais combien de vidéos. Et de rapports et de photos à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, donc on l'aurait su, à mon avis, de toute façon.
Je préfère voir par moi-même, si ça dérange.
Jackie Zavello.
Alors, en matière de gestion de l'ordre public, c'est un peu comme avec les spermatozoïdes de Jean Mathieu tout à l'heure.
Pas les miens. Pas les miens,
parce que beaucoup de votre incise, Jean Mathieu,
oui, bien sûr,
dire.
Merci.
Il bon, y a il faut qu'il y ait beaucoup de candidats pour achever la mission. Et c'est vrai que, en matière de communication, pour revenir à l'essentiel, depuis ce matin, sur les communiqués de presse du ministère de l'Intérieur, de la préfecture, il y avait les consignes pour les reporters, il y a eu énormément d'images qui ont été mises à disposition des médias par les forces de l'ordre pour leur permettre de bien faire leur travail. Non, mais l'opération qui a été menée en 2012, qui était l'opération
aussi,
César, a été un fiasco.
Alors, c'était en 2012.
Exactement, en 2012, sous la conduite de Manuel Valls, elle a été mal préparée. Le terrain a été mal évalué. Rappelez-vous qu'en matière de gestion de l'ordre et d'affaires militaires, sans revenir à des choses anciennes, hein, on a une grosse angoisse, c'est qu'on a perdu Waterloo parce qu'on a envoyé des chevaux sur un terrain boueux. Non, mais je reviens très très loin. Mais ça veut dire que les militaires et les gendarmes sont obligés de faire très attention, parce que le but du jeu, c'est pas d'évacuer 250 personnes, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés et qu'on ne se retrouve pas avec des images où il y aura des morts, des gens tabassés et des accidents qui auront évité. C'est ce qui s'est passé avec Rémy Fraisse. Il faut faire très attention. Donc il faut pas mal de monde pour assurer la sérénité et la sécurité.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Noémie Bonhomme.
Une réforme impérative de la SNCF, c'est ce que défend la ministre des Transports à l'Assemblée nationale. Le débat sur la transformation du secteur ferroviaire a commencé cet après-midi. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés quelques heures avant sur l'esplanade des Invalides à Paris contre cette réforme. La grève a été suivie aujourd'hui, quatrième jour du mouvement, par un quart des cheminots. Le trafic des trains doit reprendre progressivement demain matin. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU attendue ce soir 21h après une attaque chimique présumée sur Douma, une ville de la Ghouta orientale en Syrie avant-hier. La Russie dément toute utilisation par le régime syrien de telles armes. Les parents de Vincent Lambert annoncent un recours ce soir contre la décision de l'hôpital de Reims. Un collège de médecins s'est de nouveau prononcé pour l'arrêt des traitements. La famille de cet homme, dans un état végétatif depuis une dizaine d'années, se déchire sur son sort depuis longtemps. Le réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim en Alsace redémarre aujourd'hui après une longue pause. Il était arrêté depuis quasiment 2 ans, mais la centrale est censée fermer à la fin de cette année. Et puis le patron de Facebook a fait une erreur vis-à-vis des usages mal intentionnés du réseau. C'est ce que compte affirmer Mark Zuckerberg lui-même devant le Congrès américain demain et mercredi. Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités. Je suis désolée, peut-on lire dans son intervention transmise dès aujourd'hui.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Depuis ce matin, donc, des militaires, des gendarmes sont à l'œuvre à Notre-Dame-des-Landes pour l'évacuation de cette ZAD. Alors, tout un symbole, forcément, depuis l'arrêt du projet de la construction de l'aéroport. C'était en janvier dernier, annoncé par Édouard Philippe. Mais il y a une chose qu'on voit désormais, Charlotte Dornelas, c'est ce genre d'affrontement entre zadistes, gendarmes. On l'a vu à Bure, alors bien sûr dans une toute petite, petite catégorie, mais on se souvient bien sûr du barrage de Sivens. C'est quelque chose maintenant qui va être régulier, vous pensez, ce genre d'affrontement, ce genre de mobilisation même, aujourd'hui se mobiliser. On le voit, il y a des chantiers aujourd'hui très, très symboliques. Entre zadistes, gendarmes.
C'était un peu la crainte, justement, au moment de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on avait vu qu'en plus, en plus des décisions de justice qui avaient été prises pour ce projet, il y avait pour le coup une concertation qui avait été faite dans la région. Alors c'est vrai qu'elle était assez, assez injuste pour les régions alentours qui n'avaient pas été concertées. Mais du coup, au moment où le projet a été abandonné, on avait vu même Libération avait titré une carte en mettant, et maintenant à qui le tour, je ne sais plus quel était le titre exact, en mettant la carte de toutes les ZAD qui allait venir. Et c'est vrai que cet abandon, s'il n'était pas accompagné d'une évacuation très claire à la date annoncée, etc., c'est évidemment le risque de voir se multiplier ces choses-là. Après, si dans les autres endroits, le message envoyé, c'est par contre, on ne lâchera rien sur l'évacuation, est-ce que ça jouera sur les autres ZAD? Après, on a quand même des gens qui sont extrêmement déterminés et qui sont déterminés notamment dans l'affrontement avec les forces de l'ordre. Donc, l'avenir nous dira.
C'est un message justement adressé aussi aux autres chantiers aujourd'hui sur lesquels il y a des contestations.
Et complètement, parce que si en fait si force ne revient pas à la loi au bout du bout, l'idée c'est de dire aujourd'hui en France vous pouvez plus mener un grand projet sans voir une contestation qui peut s'enquister. Après sur le ce qu'il faut avoir en tête aussi, si vous voulez, à mon avis, c'est que il y a aujourd'hui on a un certain nombre de gens qui ne croient plus en la société, qui veulent plus faire société, qui ne croient plus en la politique, c'est-à-dire au fait de pouvoir échanger de manière pacifique autour d'idées, etc., et qui considèrent que le seul moyen de faire avancer les choses, c'est le chaos. Et en fait, on parle des zadistes, mais on voit dans les grandes manifestations sociales aujourd'hui, vous avez notamment les manifestations parisiennes, mais pas que, en province aussi, c'est la même chose.
À Nantes notamment.
Vous voyez en tête de cortège des gens qu'on nomme les Black Blocs aujourd'hui, mais qui n'ont aucune revendication sociale, qui se greffent sur ces mouvements, quel que soit le mouvement, quelle que soit la manifestation, et qui sont là juste pour faire le coup de poing.
Et qui sont des gros problèmes pour les services d'ordre, justement, même des syndicats ou des autres qui manifestent.
Attends, pour les manifestants aussi, je suis désolé, parce que c'est aussi une façon de détourner complètement l'objet, parce que les gens qui viennent manifester, ils ont des choses à dire, eux, ils ont des revendications qui sont construites, alors que ces groupes-là, la plupart du temps, en fait, quelle que soit la revendication, ils viennent pour faire le coup de poing.
Et le slogan, c'est... Moi,
je l'ai fait, les manifs, on les voit. Et puis, c'est ceux qui saccagent les agences,
etc. Les zadistes et les black box, d'abord, c'est pas forcément les mêmes.
Non, mais c'est pas ce que je dis.
Il y a des gens qui veulent pas faire société. Ces gens qui veulent pas faire société. Les zadistes, moi je pense que ces zades, elles vont se multiplier. Vous savez quoi? Je trouve que c'est pas plus mal qu'il y ait des gens qui prennent en main la défense de l'environnement.
Il y en a qui ne sont pas évacués aujourd'hui.
Pardon?
Il y en a qui ne sont pas évacués aujourd'hui, donc il était
oui, bien sûr. Il y en aura sans doute encore, parce qu'effectivement, il y a des projets qui sont des aberrations écologiques et qu'il y a des gens qui se
mobilisent. Mais le projet, il a été abandonné, là, en l'occurrence.
Non, mais je suis d'accord, celui-là, oui, mais quand il y a d'autres. Mais sauf qu'en 40 ans, il s'est passé des choses. Et là, ils ont aussi, eux, proposé un contre-projet qui était celui des terres agricoles durables, ce qui est un projet qui, à mon sens, mérite d'être entendu. Ce que je veux dire, c'est pas que des gens qui veulent pas faire société, c'est aussi des gens qui proposent une autre société. Et il y a des projets écolo.
Non, je suis d'accord, mais enfin, il faut écouter ce que dit le maire de Notre-Dame-des-Landes lui-même. Il dit, écoutez, voilà, on a aujourd'hui un exemple de bocage nantais préservé du fait du projet qui a tout gelé depuis les années 60. C'est un écosystème remarquable. 98% de cet ensemble, ce sont des zones humides. Et il dit lui-même, on peut pas avoir 350 personnes qui vivent sur ces zones humides et qui vivent n'importe comment. Et donc, l'idée, c'est quand même de garder, c'est ce qui est proposé, de garder des gens qui ont un projet. Effectivement un projet de société, un projet alternatif, et d'autres qui veulent pas du tout s'inscrire dans une démarche collective. Je dis pas qu'ils ont pas de projet, mais à partir du moment où ils rejettent tout en disant on fait ce qu'on veut ici parce qu'on veut pas partir, on est chez nous, ça pose quand même un problème.
Alors Jacques Isabello.
Il y en a à peu près une cinquantaine en France. D'ailleurs, la Gendarmerie nationale a créé une sous-direction qui s'appelle la sous-direction des affaires opérationnelles qui fait du renseignement là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens ont le droit de contester. Les gens ont le droit de porter un projet alternatif. On est dans un grand pays démocratique. Il y a des consultations publiques qui sont même organisées à chaque fois qu'il y a des grands appels d'offres. Et donc, c'est important que ça s'exprime. Mais là où c'est important aussi qu'il y ait du renseignement, parce qu'il ne faut pas que la violence vienne polluer l'ensemble du débat. Et le problème, c'est qu'en ce moment, vous avez tout un tas de pôles de contestation qui viennent d'on ne sait où et qui polluent complètement la démarche et qui ne font pas voir les messages, souvent, qui sont des messages intéressants. Par exemple, prenons le dossier Europa City. Vous êtes contre.
Alors, Europa City, j'explique juste, c'est un projet qui est au nord de Paris. Donc, voilà, c'est un grand centre commercial doublé d'un centre sportif.
Exactement. Il y a tout un tas d'élus qui sont contre. Eh bien, il faut que les messages de préservation des terres agricoles passent et non pas la baston généralisée et qu'on voit tout le temps des bataillons de gendarmes mobiles ou de CRS se déployer. C'est important que le projet prenne le pas sur la contestation violente.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça et ça fait un petit moment que ça dure. C'est-à-dire que maintenant, vous avez de manière récurrente des manifestations où il y a des gens qui viennent pour casser, qui viennent pour faire le coup de poing et encore une fois, qui n'ont aucun rapport avec les gens qui, légitimement, ont un message à porter dans la rue.
Je suis d'accord que les pneus qui brûlent, c'est pas terrible en termes de préservation de l'environnement. Ça, je suis obligé de vous rejoindre là-dessus.
Charles Dornelas, est-ce que c'est une manière aussi, voilà, pour le gouvernement aujourd'hui en pleine contestation sociale, on le voit, hein, que ça soit les universités, que ça soit la SNCF, de dire c'est pas grave, nous on lâche rien. Regardez même les dossiers aujourd'hui, que ça, même si c'est la grève SNCF, une grève importante, eh bien on peut continuer nous à gérer la situation et d'autres dossiers.
Voilà, c'est une des accusations effectivement de l'opposition qui dit vous détournez l'attention. En l'occurrence, c'est possible que ça tombe bien pour le gouvernement, mais en l'occurrence, c'était tellement annoncé depuis longtemps et même avant les dates des grèves qu'à mon avis, c'est un procès qui est un peu injuste, en tout cas dans le timing. Après, que ça satisfasse sur un plan de communication, que ce soit, le gouvernement puisse se prévaloir de son de faire revenir l'état de droit dans la ZAD, probablement que ça les arrange à ce moment-là. Mais je sais pas si c'est, enfin. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'était prévu avant les dates de grève, quoi.
Oui, c'est ça, Audrey Signeux. Oui, pendant les affaires aussi, ça continue. Voilà, tout continue. C'est ce que aussi le message du gouvernement aujourd'hui, c'était annoncé. Donc,
bah oui, quelle que soit la situation sociale. C'est normal. Après, à partir du moment où ils ont un agenda, c'est normal qu'ils le suivent. Enfin, moi, je trouve ça. Voilà,
c'était une des premières fois où il a manifesté véritablement cette envie de montrer son autorité. Mm. Hein, lors des ordonnances, on s'est aperçu qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mm. Lors de Notre-Dame-des-Landes, les gens ont dit « Attention, le gouvernement va céder, vous verrez, personne ne sera expulsé ». Ils avaient donné un calendrier, ils le font, ils essayent de le faire sans que ce soit la catastrophe, sans qu'on ait à nouveau un Rémi Fraisse. Il y a quand même un gendarme qui a été blessé, il faut quand même le signaler. Il n'y a pas que les manifestants, il y a aussi des gens qui font leur job. Et là, pour l'instant, ça se passe bien et ils arrivent. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ils le font sur 12 dossiers, mais ils montrent qu'ils sont fermes et ils le font de manière assez mesurée.
Allez, dans un instant, ça sera notre point SNCF du jour, l'info à 20h20, Noémie Bonin.
7 personnes interpellées à l'université de Nanterre cet après-midi près de Paris. Les CRS sont intervenus à la demande de la présidence de l'université. Les étudiants opposés à la réforme de l'accès à l'université s'étaient réunis à une assemblée générale. Après les violences à Tolbiac, cette fois les 6 personnes interpellées vendredi seront convoquées en septembre prochain devant la justice. Le trafic SNCF doit reprendre progressivement demain après ce 4e jour de grève aujourd'hui. Il peut y avoir encore quelques perturbations dans la matinée, notamment sur les TER et les intercités. Alors Car France entre de son côté dans le 6e épisode de sa grève ce mardi. La compagnie aérienne prévoit d'assurer les 3/4 de ses vols. Conflit social également en Allemagne, grève dans la fonction publique demain pour peser sur les négociations en cours sur les salaires. Le mouvement doit toucher plusieurs villes et régions et 4 grands aéroports. La compagnie Lufthansa prévoit d'annuler plus de 800 vols, soit un avion sur deux. L'Iran accuse Israël après une frappe contre une base aérienne en Syrie. 4 Iraniens ont été tués dans la province de Homs. Téhéran est avec la Russie l'un des principaux alliés de Bachar al-Assad dans le conflit en Syrie. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce soir après l'attaque présumée chimique de samedi sur la ville de Douma. Visite diplomatique et culturelle à Paris pour le prince héritier d'Arabie Saoudite. Son séjour se poursuit jusqu'à demain. Le volet économique devra en revanche être abordé à la fin de l'année, mais à Riyad cette fois. Emmanuel Macron est attendu là-bas pour signer plusieurs contrats.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, en cette nouvelle journée de grève sur les rails, les salariés mobilisés ont trouvé un nouvel allié dans leur combat, hein, l'algorithme du site SNCF. Lui est encarté sur le CGT tendance anard, hein, c'est sûr, puisqu'en effet, une internaute a tenté de réserver hier un Calais-Paris sur le site de la SNCF qui lui a proposé un trajet pour 500 euros. Et oui, et ce ne serait pas du tout un bug, car le logiciel propose tout simplement de passer par Londres pour ensuite se rendre directement à Paris. Un problème, une solution, c'est la SNCF en tout cas. Pendant ce temps-là, le taux de grévistes est un peu faible chez les cheminots, 24% au lieu de 29% mardi dernier, mais en augmentation chez les conducteurs de train et les contrôleurs. Alors que les discussions autour du projet de loi ont commencé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les négociations sont au point mort, chacun campe sur ses positions et la grève perdure. Alors maintenant, les chiffres tombent, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi.
Quand il y a très peu de trains, comme aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros par jour. 20 millions d'euros par jour, c'est l'équivalent de deux autorails neufs par jour.
Combien la SNCF a perdu depuis le début de cette grève ?
Probablement une centaine de millions d'euros.
Voilà, c'était Guillaume Pépi ce matin, aux côtés de Jean-Jacques Bourdin sur BFM. Voilà, les chiffres tombent, Audrey Rossigneux. Est-ce que c'est un argument ? On le voit beaucoup, Guillaume Pépi, hein, d'ailleurs, en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Avant, il ne communiquait pas du tout. Et depuis le début de la grève, il n'arrête pas. Hein.
Oui, l'alerte enlèvement a été levée. Il a été retrouvé. Avant, il envoyait des seconds couteaux, etc. Passe devant avec la lampe, je te suis avec le revolver. Là, il est quand même un peu obligé de se mouiller. Oui, c'est des chiffres. Bon, bah, il nous avait déjà fait le coup avec la dette. Hein.
C'est quoi,
je suis pas du tout sûr que ça suffise. Oui, c'est une stratégie pour conquérir le grand public, etc. Mais je suis pas du tout sûr que ça marche parce que c'est pas ça que les Je suis pas sûr que ça soit ces chiffres-là. D'abord, c'est des chiffres qui restent finalement assez abstraits quand c'est très gros comme ça. Ouais. Je suis pas sûr que ça parle plus que ça. Force est de constater que l'opinion publique est plutôt en train de se ranger du côté des grévistes. Avant, ils étaient à 35% dans les sondages. Ils ont pris quand même 10 points en 10 jours, quoi.
Ouais. Donc c'est ça qui peut inquiéter Jacques Isabello. Je ne vois pas du tout d'accord avec cette analyse.
J'ai pas lu les mêmes sondages que Aude. Ah apparemment, bon j'ai vu quelques sondages de l'IFOP qui sont sortis peut-être sans doute tardivement puisque c'était hier.
Ouais.
Et apparemment, les Français sont de plus en plus demandeurs que le gouvernement poursuive son projet. En tout cas, c'est les chiffres qui étaient avancés par rapport à la communication.
Les Français soutiennent le gouvernement, la réforme, mais ils demandent aussi au gouvernement de lâcher du lait si ça va trop loin.
Exactement.
Alors ça, c'était le Figaro d'Auxerre, deux jours encore, mais de manière générale, ouais, les gens sont de plus en plus agacés et ils sont de plus en plus demandeurs d'une réforme qui aboutirait. Par rapport à Guillaume Pépi, c'est vrai que son positionnement a été assez incertain, mais compte tenu de l'organisation entre mobilité et réseau, Guillaume Pépi, qui est quand même le type le plus identifié autour de ces sujets, déjà un, parce qu'on peut lui reprocher plein de choses, mais c'est quand même sans doute le plus grand sachant des affaires ferroviaires, et il peut pas être intervenant sur tous les sujets. Hein. Quand il y a eu, par exemple, les problèmes techniques à Montparnasse, il n'était pas le patron des problèmes techniques, donc il ne pouvait pas techniquement intervenir. Après, ce que vous voulez dire, c'est qu'il est identifié dans l'opinion publique. Après, la gouvernance, elle est ce qu'elle est, et il y a des gens qui sont à même de porter cette parole.
Beaucoup donc,
lui, il doit la mesurer.
Il est là depuis 12-15 ans. On voit bien s'il y a des problèmes à la SNCF, peut-être aussi Charles Darnay.
Il n'y a pas que lui à la SNCF, c'est pas lui qui conduit les trains. Ce qui est sûr, c'est que puisqu'en question
se pose la question de la privatisation, même si je sais que c'est exactement une question de privatisation, mais en l'occurrence, dans le privé, Guillaume Pépi n'existerait plus, en fait. Il aurait évidemment été débarqué. Quelqu'un qui nous dit on perd 20 millions d'euros par jour avec cette grève, quelqu'un qui a été aussi mauvais gestionnaire ferait bien de pas trop aller sur le terrain des chiffres, en l'occurrence, à mon avis. Après, sur la question de l'abstraction, à mon avis, les Français se rendent compte quand même que 20 millions d'euros, ça fait beaucoup, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, il y a une perte d'argent qui est réelle. Mais la question, c'est qu'effectivement, dans les nouveaux sondages, les Français soutiennent la réforme. Pourquoi ? Parce qu'ils savent bien qu'il y a un problème avec la gestion de la SNCF. Il faut changer quelque chose. Après, ce dossier est extrêmement compliqué. On n'y comprend pas grand-chose. Alors, effectivement, peut-être que là, pour le coup, Guillaume Pépi comprend plus que nous et que les Français en général. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer quelque chose. Et je pense que les syndicats, ou en tout cas certains, ont assez mal géré leur communication, mieux que le gouvernement qui n'a pas du tout communiqué pendant longtemps, mais assez mal géré en insistant sur le statut des cheminots qui est inaudible.
C'est pas eux qui disent que c'est le gouvernement qui a insisté sur le statut des cheminots.
Bien sûr, mais ils l'ont défendu. Alors après, c'est les questions qui leur sont posées. Enfin bon, c'est le serpent qui se mord la queue indéfiniment, mais ils ont beaucoup insisté là-dessus. Alors qu'effectivement, je pense qu'au début, le soutien, notamment populaire, se faisait sur la question de la concurrence et également sur la question des petites lignes. Ça a fait peur à beaucoup de gens pour le coup, mais les gens qui ont peur pour leur petite ligne aujourd'hui ne peuvent pas prendre le train. Donc peut-être que ça s'équilibre à la fin.
Mais ils se rendent compte à quel point ils sont indispensables aussi, du coup.
Bien sûr.
Une chose rapide, juste Stéphane Vernet, c'est assez étonnant. Ce dimanche, Nicolas Hulot est sorti du bois gouvernemental pour déclarer son amour à la SNCF. C'était dans le JDD. Ne pas agir, ce serait trahir une histoire vieille de 100 ans. C'est un peu le principe good cop, bad cop qu'il y a eu en fait entre Édouard Philippe et lui.
Ben, Nicolas Hulot, il est obligé de prendre la défense du ferroviaire parce que c'est l'avenir par rapport à la problématique du réchauffement climatique. Les trains, on en a besoin, y compris les petites lignes. Après, il faut que ce soit rapide.
Alors, alors, ce qu'on va faire, vous savez, Stéphane, on va y revenir dans un instant. Okay. Et justement, moi aussi, j'ai 2-3 choses à vous dire. Ne m'inquiétez pas. On va continuer à parler de la SNCF. On parlera d'Emmanuel Macron qui ne va pas arrêter d'être présent sur vos écrans cette semaine. Vous allez voir, c'est assez un problème. C'est même un programme télé sur pattes. Et puis, on parlera également de la Syrie. Vous savez qu'il y a une réunion importante à l'ONU à partir de 21h ce soir. Voilà le programme à suivre dans Les Informés de France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on trouve des tutos pour tout. Des tutos pour faire les devoirs aux enfants sous hypnose, pour dompter un poisson rouge, pour tricoter un bonnet de bain. Mais alors si je pouvais trouver LE tuto pour profiter de plein de gigas à moindre prix, là, ça serait vraiment utile.
Ne cherchez plus. Chez SFR jusqu'au 9 avril, le forfait Power 50 Go est à seulement 10€ par mois pendant un an, puis 24€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois.
France Info à Ajaccio, 105.6.
Et partout dans le monde, sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récolté à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Encore des averses demain, des averses marquées le matin entre la Normandie, la région parisienne, le centre, le massif central. Même chose de l'Alsace vers Rhône-Alpes, le Languedoc, la région PACA et la Corse. Les averses seront plus éparses des frontières du Nord à la Bourgogne. L'après-midi, ça s'éclaircira sur ces régions. Il restera tout de même des averses de la Normandie au nord de la Seine, sur le Languedoc, la Provence et la Corse aussi, parfois avec un orage. Sur l'Occitanie, les éclaircies du matin s'effaceront l'après-midi. Et puis de la Bretagne à l'Aquitaine, de belles éclaircies le matin, déjà des averses sur le littoral. Elles s'imposeront d'ailleurs l'après-midi. Le vent de sud à sud-est atteindra 70 à 80 km à l'heure des Pyrénées à la vallée du Rhône. Il fera souvent 6 à 11 degrés le matin. L'après-midi, 13 degrés à Caen, Bordeaux, 15 à Metz et à Bourges, 17 degrés à Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille et 19 du côté de Grenoble.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Plusieurs cortèges ce soir à Paris, Rennes, Nantes, d'autres un peu partout en France. Des soutiens aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. L'évacuation du site de Loire-Atlantique a commencé ce matin. 13 squats déjà évacués, avec par endroits des affrontements avec les gendarmes. Farida Nouar, vous êtes dans le centre-ville de Rennes. Plusieurs centaines de personnes autour de vous. Où en est ce cortège ?
Bien écoutez Augustin, le cortège de manifestants a grossi, ils sont maintenant plus de 300, ils ont quitté la place Sainte-Anne où ils s'étaient donné rendez-vous tout à l'heure et ils marchent en ce moment dans les rues de la ville sans avoir de lieu précis à atteindre, mais les forces de l'ordre les attendent pour bloquer les accès, il y a de la tension, les CRS ont envoyé tout à l'heure du gaz lacrymogène pour les faire reculer en face, les manifestants ont fait demi-tour sans aller à l'affrontement, même s'il y a quand même un peu de provocation, ils marchent en ce moment sous la pluie, une banderole est déployée, la ZAD vivra, une autre bring ZAD home, il ne faut rien lâcher, disent les Rennais réunis ce soir. À défaut d'être sur la ZAD, nous sommes ici pour soutenir les zadistes. L'inflexibilité du gouvernement nous donne encore plus envie de nous battre. Pour Laura, ce qui s'est passé ce matin est incompréhensible, c'est une aberration. Dans ce cortège, c'est aussi la convergence des luttes, abat la police, vive les cheminots, Macron démission, vive l'écologie, vive les anticapitalistes. Un florilège de revendications, mais pour tous, la ZAD vivra et vaincra. Elle nous appartient, scande-t-il. Beaucoup d'étudiants sont présents ce soir, venus pour la plupart de la faculté de Rennes, où une AG s'était tenue ce matin et appelé au rassemblement ce soir pour soutenir les zadistes. Certains envisagent de faire ce soir plus que de se rassembler et d'aller directement sur la ZAD ce week-end.
Farida Nouar, et ce soir la Confédération paysanne parle d'une opération inacceptable du gouvernement. Elle espère une mobilisation nationale. Vous parliez, Farida, des étudiants. Il y a également des perturbations dans de nombreuses universités avec des blocages de campus pour s'opposer au projet de réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Blocage à Nancy, Metz, Strasbourg, Bordeaux, Montpellier ou sur le site de Tolbiac à Paris. Le président de l'université de Nanterre a demandé cet après-midi l'intervention des CRS pour évacuer plusieurs bâtiments. Un vol sur deux prévu demain chez Lufthansa, conséquence d'une grève de la fonction publique allemande qui touchera 4 aéroports allemands. La direction d'Air France, elle, prévoit 75% de vols assurés pour ce mardi, qui sera la 6e journée d'une mobilisation de son personnel intersyndical qui réclame une augmentation générale des salaires. Quelques perturbations encore à prévoir demain matin sur les rails, mais la SNCF prévoit un retour à la normale dans l'après-midi. Le projet de réforme contre lequel se battent les syndicats, eh bien, ce texte a été présenté aux députés aujourd'hui. La prochaine journée d'action des cheminots est prévue vendredi et plusieurs assemblées générales ont voté aujourd'hui pour transformer cette action en une grève reconductible. Le Conseil de sécurité des Nations Unies évoquera à nouveau ce soir la Syrie et ses accusations d'attaques chimiques la semaine dernière en Ghouta orientale. Donald Trump promet une décision majeure très bientôt. Conseil de sécurité probablement divisé. L'armée russe a fait savoir que selon des médecins, il n'y avait aucun signe d'attaque chimique. 21h30 jusqu'à 21h, Jean-Mathieu Pernin les informait.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est en stand-up paddle qu'ils rejoignent le continent actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la journaliste Audrey Rossigneux, le communicant Jackie Isabello, co-fondateur de Corioling, Stéphane Vernet de West France et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Nous étions en train de parler de la SNCF et je vous ai mais méchamment, presque salement sabré, hein, Stéphane Vernet. Ou vous vouliez rajouter juste justement un mot sur
je voulais dire
la SNCF, dont le projet de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée.
Je voulais juste dire deux petites choses rapides sur ce qu'on venait d'évoquer. Oui. Sur les sondages, les sondages, je trouve ça très intéressant. Le problème des sondages, c'est que c'est comme les référendums, tout dépend de la question qui est posée. Et c'est pour ça qu'entre deux sondages différents, vous pouvez avoir des réponses totalement différentes, simplement parce que l'intitulé n'est pas le même. Et donc, ce qui n'a vraiment d'intérêt, c'est de les regarder dans la durée. C'est-à-dire quand vous reposez à un échantillon similaire, à une semaine, deux semaines ou trois semaines, la même question. Et donc le sondage de ce dimanche, le sondage IFOP, montrait qu'il y a une progression de, je crois que c'est 11 points. C'est-à-dire qu'il y a, vous avez, d'une semaine à l'autre, il y a 11
soutien
11
à la réforme.
Points, voilà, qui soutiennent la réforme. Donc il y a quand même quelque chose qui laisse penser que
une
les
tendance
choses...
qui se marque, ouais.
Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on entend plein de gens critiquer Guillaume Pépi en disant il est pas bon gestionnaire, etc. Mmh. Mais tout le monde oublie un truc. C'est que Guillaume Pépi, il est à la tête d'une entreprise publique.
Oui.
Et son job, c'est de faire ce que lui demande le gouvernement, l'État, et c'est de gérer son entreprise telle que lui demande son actionnaire. Et en fait, c'est un bon soldat. C'est-à-dire que aujourd'hui, il défend la réforme. Pourquoi il l'a pas fait avant? Parce qu'on lui a pas demandé de la faire avant.
Ouais, non,
tout simplement. Non, mais
la question qu'on posait tout à l'heure, c'était sur le fait qu'à un moment aussi, il est à la direction de la SNCF aussi, peut-être. Quand aujourd'hui, il dit c'est une entreprise qui a été mal gérée, qui la gère.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on part tous du principe.
Aussi,
on part tous du principe qu'il y a une continuité dans l'histoire.
L'actionnaire donne des consignes.
Eh oui.
Et le patron applique les consignes, même si la gestion est une gestion qui s'avère calamiteuse. Et là, par rapport à ça, en termes de posture de communication, Guillaume Pépi, lui, il doit avoir, pardon de ces termes compliqués, mais il doit avoir une posture d'expert, ce qu'on appelle l'éthos dans un message. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans le pathos et il ne peut pas être dans la logique. Il doit donner de l'information, il doit faire en sorte que ses collaborateurs expliquent combien de personnes vont être mobilisées, quelles seront les possibilités pour les gens de prendre le train demain. Voilà, il faut être assez mesuré. Et malheureusement, c'est Guillaume Pépi, il est tellement prenant sur ces sujets-là qu'il est obligé un peu de se
parce mesurer. Que c'est vrai qu'on a vu Guillaume Pépi, on se souvient, lors du premier jour de grève, annoncer une apocalypse totale dès le lundi soir qui ne s'est pas du tout déroulée. C'est vrai qu'on se demande, voilà.
On lui a demandé de se calmer un peu, c'est sûr.
Je pense. Allez, de toute façon, il y a une conséquence directe, déjà, de ces grèves. C'est Emmanuel Macron qu'on va beaucoup voir cette semaine. Puisque tout le monde le sait, il faut se méfier des gens qui, au moment de faire un discours, disent, bon, je serai pas long. Et en fait, ça dure 5 heures, derrière, vous le savez. Alors, aurions-nous dû nous méfier quand, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron expliquait que sa parole serait rare, qu'il n'interviendrait pas sur tout, pas sur les petits sujets comme ça. Eh bien, en fait, c'est le contraire qui se passe, puisque le président de la République intervient sur tout, et c'est les autres qui ont la parole rare. Moment médiatique unique cette semaine, puisqu'Emmanuel Macron interviendra deux fois dans les médias. D'abord jeudi à 13h dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, installé pour l'occasion dans une école de l'Orne. Et dimanche, il sera interviewé par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Et c'est assez, finalement, classique pour le député du Front National, Sébastien Chenu.
Sur la forme, bon, la ficelle est un peu grosse, hein, l'opération de communication dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, tournée plus vers les retraités, vers les gens de province, etc.
Il serait resté à l'Élysée, vous auriez dit, dans son bunker.
Non, mais, bon. Je veux dire, on comprend que derrière ça, il y a une véritable opération de communication.
C'est pas sympa pour les gens qui regardent le 13h de TF1.
Bah si, au contraire, c'est très insultant pour eux d'imaginer que le président ne descend de sa plateforme, en tous les cas que Jupiter ne descend qu'à un moment donné, sur un moment donné, au JT de TF1 pour leur parler. Ensuite, il repartira avec un peu de mépris, comme il l'a souvent, vis-à-vis des classes populaires, de ceux qui bossent, des retraités, parce qu'on est dur, hein, avec tous ces gens-là.
Voilà, Sébastien Chenu, ce matin, aux côtés de Jean-Michel Apathy et Bruce Toussaint, dans la matinale de France Info. Audrey Rossignol, il était en manque, Emmanuel Macron ?
Mais non, mais pour un mec qui est serein, je trouve qu'il quand même, il parle beaucoup, ça commence à s'affoler un peu. Puis effectivement, là, pour le alerte enlèvement, où est passé Jupiter ? Mais oui, on a enlevé Jupiter, et sa parole devait effectivement être rare, et puis il avait une pensée complexe, donc nous, les journalistes, on ne pouvait pas tout comprendre. Mais là, finalement, tout bien considéré, comme le mouvement social commençait à être un peu compliqué, etc., et ben, ça sent quand même l'opération de com' de déminage, quoi. Donc pour quelqu'un qui est très serein, je trouve que c'est pas visible à l'œil nu, sa sérénité,
ouais,
si vous voulez.
C'est ça. Charlotte Dornelas, est-ce que vous... C'est assez rare, enfin, je ne sais pas si ça s'est produit, d'ailleurs, qu'un président de la République fasse deux émissions dans la même semaine. D'ailleurs, mais c'est vrai que normalement ça devrait être découpé comme ça, avec Jean-Pierre Pernaut, il parlera donc du monde rural, des personnes âgées, de la SNCF et BFM Mediapart. Ça sera la première année, un bilan de son quinquennat. En fait, c'est assez étonnant parce que c'est assez critiqué ce soir dans beaucoup de rédactions, c'est-à-dire qu'il fixe l'ordre du jour.
Emmanuel Macron. Assez amusant parce que là, en entendant Sébastien Chenu, j'ai été faire quelques petites recherches, ouais. Et je me souviens de la critique qui avait été faite par Bruno Roger Petit, qui travaille donc maintenant à la communication de l'Élysée, quand Nicolas Sarkozy avait été au JT de Jean-Pierre Pernaut, et il lui reprochait justement, il se demandait si l'émission n'était pas télécommandée par l'Élysée. En parlant de la mise en scène de Jean-Pierre Pernaut, il décrivait à l'époque un public âgé, provincial, conservateur et inactif. Donc Bruno Roger Petit a la même critique finalement que Sébastien Chenu. Et à la fin, il y avait surtout quelque chose d'assez amusant, je trouve. Il disait, donc il parlait d'Yves Calvi et de Jean-Pierre Pernaut en disant « Les très mauvaises langues soulignent que ni l'un ni l'autre ne sont des journalistes économiques et sociaux et qu'ils sont donc de ce fait parfaitement qualifiés pour interroger le président de la République dans une émission où il ne sera question que d'économie et de sociale. » Exactement ce que va faire Emmanuel Macron dans deux jours. Donc voilà, c'est évidemment une opération de com'. Après, l'accuser d'avoir promis une parole rare et de ne pas s'y tenir, de fait, sa parole est assez rare. Il a quand même laissé pas mal son premier ministre.
On l'entend beaucoup quand même, Emmanuel Macron, même
sur
les sujets.
Là, on va l'entendre beaucoup cette semaine, mais il a quand même laissé son premier ministre parfois en première ligne, notamment sur la question des 80 km/h, qu'on a un peu oublié, mais qu'on fait beaucoup hurler. Bon, alors c'était de fait Édouard Philippe qui portait à cœur apparemment ce projet. Mais voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup et qu'il y a une sérénité qui n'existe pas chez Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Et il s'adresse, voilà, aux gens, et en plus dans une petite école
pour, de l'Orne, alors ça c'est pour Jean-Pierre Pernaut, on ne sait pas encore, on va y revenir dans un instant.
Et puis pour les gens qui sont privés d'école aussi par le gouvernement. Et,
voilà, on va y revenir dans un instant, l'info à 20h40, Noémie Bonin.
Plus d'un millier de personnes rassemblées à Nantes et Rennes, notamment en cette fin de journée, manifestation de soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Le site a commencé à être évacué. Aujourd'hui, 13 squats ont été détruits, 7 personnes interpellées. L'opération est suspendue jusqu'à demain matin. Des CRS dans une fac, la scène se passe à Nanterre, près de Paris. Les policiers sont intervenus pendant une assemblée générale des étudiants à la demande de la présidence du site. 7 personnes ont là aussi été interpellées. Après les discussions dans les gares, place au débat, l'Assemblée nationale à propos de la SNCF. Les députés de gauche montent au créneau, les insoumis mais aussi les socialistes défendent le statut des cheminots. À droite, les élus Les Républicains dénoncent un texte bâclé alors que le trafic des trains doit reprendre progressivement demain matin après cette 4e journée de grève. Un acte barbare, c'est ce que dénonce Donald Trump ce soir à propos de l'attaque présumée chimique sur la ville syrienne de Douma avant-hier. Le président américain promet des décisions majeures dans les 24 ou 48 heures, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU est censé se réunir ce soir à 21h. Le président russe Vladimir Poutine met en garde contre des provocations. C'est un sujet vieux d'une dizaine d'années, relancé aujourd'hui. L'hôpital de Reims se prononce pour un arrêt des traitements de Vincent Lambert. Cet homme est dans un état végétatif depuis 2008. Les parents vont déposer un recours.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est un vrai programme télé à lui tout seul, Emmanuel Macron, puisqu'il interviendra jeudi à 13h dans le journal Jean-Pierre Pernaut, puis dimanche aux côtés d'Edoui Plenel et de Jean-Jacques Bourdin. Mais concernant Jean-Pierre Pernaut, si vous êtes un fidèle, si parfois peut-être vous vous ennuyez, vous aimez aussi les feux de l'amour, faut pas l'oublier, eh bien vous regardez Jean-Pierre Pernaut. Et il y a une particularité dans ce journal, c'est qu'il y a très très peu d'interviews. On l'a souligné tout à l'heure, Nicolas Sarkozy est venu en faire un tour, et sinon il n'y a pas trop d'interviews. Mais pourquoi il y a si peu d'interviews? Et là il y en aura une, mais pourquoi si peu d'interviews? Eh bien il répondait à cette question au micro de Yann Barthès, c'était en février dernier dans l'émission Quotidien. On écoute Jean-Pierre Pernaut.
Vous interviewez assez peu de gens?
Ouais.
Ça vous manque pas?
C'est pas mon truc. Non, ça me manque pas du tout. C'est pas moi, je préfère voir les gens en reportage.
Ça ne manque pas du tout.
Non, ça me manque pas du tout. J'en ai fait quelques-unes d'interviews quand, je sais pas, par exemple, Fourcade, quand il va rentrer en France, j'aimerais bien l'avoir sur le plateau. Comme j'ai eu quelques champions qui sont venus, quelques hommes politiques, pas beaucoup, quand ils font un truc qui a un rapport avec les régions. Il y en a eu quelques-uns.
Voilà, il y en a eu quelques-uns, Jacques Isabello. Ce choix, ça vous paraît étonnant, Jean-Pierre Pernaut?
Je trouve que c'est un choix. La séquence entière est plutôt judicieuse et je vais me permettre de donner deux, trois éléments.
C'est pas trop.
Un, on parle des régions. On dit que c'est le président des riches. On dit que c'est le président qui ne connaît pas les territoires. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. On dit que Emmanuel Macron, toutes ces réformes impopulaires dans les territoires, eh bien, il les a pas pensées. On dit que il ne comprend pas les retraités. Eh ben, tous ces publics-là, qu'est-ce qu'ils regardent? Quelle est la star absolue qui fait 5,5 millions tous les 13 heures et qui le fait depuis 30 ans? C'est Jean-Pierre Pernaut. Et donc, il n'y va pas pour mener une espèce de bataille comme si c'était Laurent Geoffrin ou je ne sais trop qui. Hein. Il le fait, ou Jean-Michel Apathy pour parler de France Info. Il va le faire pour décliner un programme et surtout, il va expliquer qu'au-delà de la SNCF, au-delà de Notre-Dame-des-Landes, il a une complétude pour faire du Ségolène Royal dans un programme qu'il a présenté il y a un an. Ça, c'est le premier point.
Ouais.
Et il ne pouvait pas faire un acte de célébration chez Jean-Pierre Pernaut. Ça aurait été une espèce de gloriole que les gens n'auraient pas apprécié. Alors, la deuxième séquence, elle est plutôt risquée parce qu'on peut dire oui, ça va être télé Macron. Il faut quand même aller escompter Bourdin, c'est-à-dire que Bourdin, il peut vous péter les dents, il n'en a rien à foutre, il est payé pour ça. Edoui Plenel, il va le faire en souriant, mais s'il peut vous péter les dents, il va le faire aussi, parce que ce sont des gens qui sont solides, qui ont toujours interviewé. Donc cette séquence, cette deuxième séquence, c'est un combat, et donc il va y avoir une complémentarité. Et pourquoi il le fait? Juste pour terminer, parce que c'est pas le nombre qui est important. En fait, c'est l'appropriation. C'est est-ce que Emmanuel Macron peut s'approprier l'autorité de la parole donnée?
Oui, mais
François Hollande n'en avait plus,
on peut se poser
Nicolas
la question.
Sarkozy non plus, et lui il l'a encore, donc il faut qu'il a, et cette séquence, cette double séquence, elle est plutôt bien pensée.
On peut se poser la question de décliner ça finalement après à chaque fois. Alors finalement il fera une séquence quelque part où il annoncera quelque chose et après une autre pour se coltiner un journaliste plus pugnace.
Chaque président de la République a ses règles. Pendant 15 ans on a vécu sur les règles de Pilan où on disait attention, la parole présidentielle doit être rare, donc Mitterrand ne parlait jamais, Chirac a essayé d'appliquer les règles de Pilan, et puis d'un coup on s'est dit, ah bah tiens, maintenant il y a France Info, il y a les chaînes d'information continue. Puis il y a un truc génial qui s'appelle les réseaux sociaux. Emmanuel Macron nous avait dit qu'il serait rare. Et nous, les communicants, on avait dit que ça n'est pas possible d'être rare. Donc il fallait qu'il le pense. Et cette double séquence, honnêtement, elle est plutôt maligne quand on regarde la complémentarité des intervieweurs et surtout la complémentarité des messages qu'il va distiller. Et enfin, la complémentarité des postures. Parce que je peux vous dire que dimanche soir,
oui,
il va aller à la castagne avec les deux.
Alors,
et ça va être plutôt sympa comme moment de télé.
On va écouter une petite chose. C'était Jean-Jacques Bourdin qui, en décembre dernier, on n'avait pas du tout apprécié l'interview réalisée par Laurent Delahousse un dimanche soir à l'Élysée. Ça n'allait pas du tout. Jean-Jacques était un peu jaloux. Voilà, on va dire ce qui est. Il ne la sentait pas trop, cette interview. C'était pas le seul. Mais voilà dans quels termes, finalement, il en parlait le lendemain au micro d'RMC et surtout la manière dont il attendait Emmanuel Macron. On écoute Jean-Jacques Bourdin, c'était en décembre dernier.
Cette aimable conversation de salon. Le président de la République n'est pas un homme politique, non.
C'est
vrai que Michel Drucker l'aurait mieux fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions précises. Et celui qui est en face, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre à des questions précises. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est pas la peine. Ah bah oui, sinon, on fait la une d'un journal papier glacé, et puis voilà.
Voilà, Jean-Jacques Bourdin. Donc, en tout cas, il se prépare pour dimanche. Stéphane Vernet, c'est intéressant d'avoir justement ces deux points de vue où, finalement, on peut aussi se lasser à un moment d'Emmanuel Macron dans la semaine, puisqu'il va parler des mêmes sujets, même si soi-disant c'est bilan dimanche, c'est un an de quinquennat. Est-ce qu'on peut pas se lasser?
Mais non, mais en fait, il y a eu beaucoup de journalistes qui se sont plaints qu'il avait la parole rare, qu'il répondait pas aux interviews, etc. Là, il fait deux télés dans la semaine, et maintenant c'est trop. Faut pas.
Mais il n'y a pas une lassitude aussi, bah justement.
Non. Moi, je pense qu'on a un moment charnière. Il se passe quelque chose. Si vous voulez, ça bouillonne, ça s'agite quand même, hein, dans le pays. On a parlé de Notre-Dame-des-Landes. Il y a la grève à la SNCF. Il y a les facs qui partent en sucette. Enfin, voilà. Il y a un moment, si vous voulez, je pense que le capital confiance qui était celui de Macron, jeune président élu. L'année dernière, il s'est très sérieusement érodé et aujourd'hui il est écorné. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui n'écoutent plus parce que s'il va chez Pernod, c'est pour parler de la ruralité. L'étiquette président des villes, c'est pire que l'étiquette président des riches et ça leur fait beaucoup de mal sur le terrain parce que c'est une espèce de grand fourre-tout qui englobe tout. Vous pouvez mettre à la fois le côté président des riches et puis le gars arrogant qui n'écoute pas et puis ces Parisiens qui nous méprisent et tout. Et ça fait beaucoup de dégâts sur le terrain. Sauf que dedans, il y a plein de choses qui sont reprochées au gouvernement aujourd'hui qui correspondent pas à la réalité. Par exemple, il y a toute la musique sur l'État coupe les dotations aux collectivités locales. C'est pas vrai. L'État va abandonner les petites lignes. Ils s'en défendent. C'est pas vrai non plus, etc., etc. Sauf qu'ils ont beau le dire, plus personne n'entend parce qu'il y a une vraie crise de confiance. C'est-à-dire que
les gens... Elle est là depuis longtemps, cette crise.
Elle précède. Okay. Mais si vous voulez, il y a un moment, il y avait le bénéfice du doute. Aujourd'hui, ce bénéfice du doute, il n'existe plus. Et le retour à la crise de confiance, et de toute façon, tous ces politiques ils nous promettent plein de choses. C'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Ils vont privatiser la SNCF, même s'ils disent le contraire. Et voilà. Et donc.
Donc pour vous, c'est pas trop, finalement.
Je pense que c'est un moment clé où il faut qu'il essaye de restaurer cette confiance-là.
Alors.
Et il cherche à le faire avec des médias qui ont de la portée.
Audrey Rossigneux.
Ouais, moi, je trouve que quand même, à 3 jours d'intervalle, ça fait quand même un peu beaucoup. C'est-à-dire que quand on veut avoir l'air d'être serein, cette espèce, ça donne le sentiment d'un mec qui veut sauver les meubles. Moi, c'est quand même ça, moi, ce que je vois. Donc, donc alors après, il faut dire qu'il est pas.
Il est pas. C'était là, c'était. Ça commence à être compliqué.
Mais je suis pas sûr que le fait de montrer que c'est la panique, ça soit un très très bon.
Il faut qu'il soit bon.
Un très bon, parce qu'effectivement, alors on est d'accord qu'on a le comité des fêtes de la commémoration de 68 qui est en pleine forme avec Colomb qui est à la tête en Monsieur Loyal, avec les flics qui viennent en plus maintenant dans les universités. Oui. C'est parfait, là, vraiment. La convergence de lutte, tout le monde y met un petit peu du sien, mais je suis pas sûre que le fait de la jouer sauf qui peut, ça soit en termes de com génial. Après, moi, je pense que ça existe encore comme monsieur. Hein.
Charles Dornelas.
Non, mais il y a juste une autre chose, parce que tout à l'heure, je parlais de Nicolas Sarkozy qui a fait la même chose, mais la différence quand même majeure, c'est que chez Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron va s'adresser à des gens qui n'ont pas majoritairement, globalement, voté pour lui, à la différence de
les
Nicolas Sarkozy.
Les retraités ont voté pour lui majoritairement.
Oui, mais la France rurale, de manière beaucoup plus large, elle a moins, en tout cas, elle est moins identifiée comme ayant voté. Si Emmanuel Macron n'avait fait que cette interview avec Edoui Plenel, à savoir Mediapart, souvenez-vous de la campagne présidentielle quand même.
Il l'a fait deux fois l'année dernière d'ailleurs, Mediapart.
Mais s'il avait fait Mediapart et BFM TV, qui avaient porté les mêmes accusations, en tout cas du camp opposé à Emmanuel Macron, tout le monde a accusé effectivement les médias d'avoir été du côté d'Emmanuel Macron contre François Fillon en l'occurrence, et notamment Mediapart. S'il avait fait que ça, il se serait coupé effectivement des gens qui sont extrêmement critiques et qui ne le soutenaient pas déjà dans sa politique. Mmh. Donc c'est plutôt, moi je vous rejoins assez, c'est plutôt habile et en plus faire deux interviews qui s'adressent à des publics différents et avec des journalistes très différents dans la manière d'aborder des sujets, je pense qu'on puisse leur reprocher d'être partout et deux postures évidemment différentes.
Et puis la communication moderne, elle a un grand problème, c'est qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé à un moment de Nicolas Sarkozy. On disait François Fillon, 30 ans de politique, c'est un collaborateur. Emmanuel Macron, il a personne derrière. Il a créé son parti il y a un an, sa start-up il y a un an, et il n'a
pas, surtout pas qu'il se développe,
de personnage politique de poids qui peut imposer cette autorité. Donc il est obligé d'aller au carton lui-même, et le match de boxe est déjà annoncé. Vous avez passé des images.
Et voilà,
les invectives sont lancées par Médias Interposés.
Allez, l'info à 20h50, Noémie Bonin.
Le mouvement à la SNCF peut-il se durcir encore ? L'Assemblée générale de la Gare du Nord à Paris vote pour une grève reconductible à partir de vendredi, un cran au-dessus donc de la grève perlée qu'on connaît aujourd'hui. 4e jour d'ailleurs ce lundi, le trafic des trains doit reprendre doucement demain matin. Redémarrage à l'aube demain de l'opération d'évacuation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. 13 squats ont pour l'instant été démantelés, 7 personnes interpellées. Nouvelle assemblée générale des étudiants prévue demain matin à l'université de Nanterre, près de Paris, après l'intervention des CRS cet après-midi pour évacuer ces jeunes réunis en assemblée générale. Le président du site assume avoir fait appel à la force publique. 6 personnes toujours interrogées par les enquêteurs ce soir dans l'enquête sur le couple de policiers tués à Magnanville il y a 2 ans. Ce qui est particulièrement marquant, c'est qu'une policière fait partie des gardés à vue. C'est l'ancienne déléguée départementale du syndicat Alliance. Une visite en Arabie Saoudite se prépare pour Emmanuel Macron en fin d'année, notamment pour signer des contrats. Annonce faite alors que le prince héritier saoudien est à Paris depuis hier soir. Visite importante avec de nombreux sujets diplomatiques, notamment à l'ordre du jour. Et puis le magazine Têtu est liquidé pour la 2e fois. Le magazine dédié aux homosexuels a déjà été arrêté une première fois en 2015, mais il a été relancé l'an dernier, sans succès donc. Le dernier numéro est paru en novembre uniquement en version numérique.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est une question, c'est un sujet dont nous aurons l'occasion de parler plus longuement demain, puisque dans 10 minutes maintenant, à New York, se tiendra une réunion de l'ONU en urgence pour tenter de répondre après la présumée attaque chimique qui aurait été commise un samedi à Douma en Syrie. Les casques blancs, des secouristes en zone rebelle, un groupe insurgé ainsi que l'opposition en exil ont accusé le régime syrien d'avoir mené une attaque chimique samedi, donc à Douma, dans la Ghouta orientale, proche de Damas, faisant des dizaines de victimes. Le gouvernement syrien et ses soutiens, notamment la Russie et l'Iran, ont démenti la responsabilité des forces gouvernementales, tandis que le président américain Donald Trump a lui dénoncé une attaque chimique insensée, prévenant qu'il faudra en payer le prix fort. Et dans un tweet, il a même traité Bachar el-Assad d'animal. Et la France appelle à prendre ses responsabilités. Et maintenant, eh bien, beaucoup de choses sont possibles, selon Jim Mattis, c'est le ministre américain de la Défense.
La première chose que nous avons à examiner, c'est pourquoi des armes chimiques sont encore utilisées alors que la Russie s'était portée garante de la suppression de toutes les armes chimiques. C'est pourquoi, en coopération avec nos alliés et nos partenaires depuis l'OTAN jusqu'au Qatar, nous allons nous occuper de ce problème. Je n'exclus rien à l'heure actuelle.
Voilà, Jim Mattis, donc ministre américain de la Défense. Stéphane Vermet, c'est vrai que là, c'est pas la première fois qu'on parle de nouveau de ligne rouge. On a l'impression qu'il y a été lavé, même cette ligne, parce que depuis le temps, depuis 2012, on parle tout le temps de ligne rouge. Donald Trump indique qu'il y aurait sûrement une action dans 24, voire 48 heures. C'est-à-dire que là, forcément, il va y avoir une réponse, même peut-être concertée, entre les États-Unis, la France. On sait que Emmanuel Macron et Donald Trump se sont appelés.
Oui, ils se sont entretenus au téléphone. Bon, alors après, quelle va être la réponse? C'est très difficile à dire. Ceci dit, la réponse, elle a déjà eu lieu, puisqu'il y a eu une frappe aérienne sur un aérodrome. Alors, ce qui est, c'est un sujet tragique. Donc, ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est que il y a une attaque au gaz toxique. On nous dit, Bachar al-Assad dit, c'est pas moi. Et puis derrière, il y a une frappe aérienne de représailles. Et donc la France et les États-Unis qui avaient menacé, disent, c'est pas nous. En fait, on sait pas qui tape sur qui. Ça devient quand même très très compliqué. Tous les regards se tournent vers Israël, qui ne fait aucun commentaire. Mais vous voyez bien qu'on est dans un scénario absolument délirant. Ce qui se passe est monstrueux. Mais alors, vous avez une imbrication des forces en présence qui devient
très complexe et vraiment
plus que complexe,
un nœud presque impossible à défaire. Charlotte Dornelas, est-ce que la France, on a vu Emmanuel Macron l'a dit, il faut prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la première fois que la France dit ça. Est-ce qu'elle joue un rôle véritablement important, où on voit, quand on voit aujourd'hui Donald Trump qui est à l'offensive, on voit Vladimir Poutine de l'autre, est-ce que finalement on joue un rôle?
On n'en joue plus depuis très longtemps, et là, c'est pas Emmanuel Macron qu'il faut le reprocher, mais plutôt à son prédécesseur et à son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. On est clairement sorti du jeu syrien, et que ça nous fasse plaisir ou non, Bachar al-Assad a évidemment gagné cette guerre. Alors, elle se poursuit dans les détails, mais avec la Russie, c'est donc des acteurs intermédiaires qui ont effectivement pris le lead sur ce jeu, et la France est sortie du jeu. Et
moi, si François Hollande souhaitait lui des frappes, alors que
Barack Obama, les rôles se sont un petit peu inversés. Voilà. Barack Obama était beaucoup plus prudent, on va dire, sur cette question de la ligne rouge qu'il avait lui-même fixée par ailleurs. Oui. Mais pour intervenir, François Hollande voulait absolument y aller. Emmanuel Macron, à mon avis, a fait plaisir surtout aux nombreux néoconservateurs qui peuplent le Quai d'Orsay en parlant de cette ligne rouge lui aussi. Il a toujours été beaucoup plus dans une volonté de, en tout cas en termes de communication, de dialogue diplomatique avec le gouvernement syrien. Il y a une chose qui est étonnante quand même du côté de Donald Trump, c'est qu'à l'époque où Obama promettait d'aller frapper, on se souvient c'était en septembre 2013, où il promettait d'aller frapper après des attaques chimiques, Donald Trump l'avait supplié en lui disant vous allez détruire ce pays, ça ne sert à rien de bombarder. Et moi ce que je remarque surtout, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas, puisqu'il y a autant de raisons rationnelles pour que ces attaques viennent à la fois du gouvernement et même de la rébellion. C'est possible des deux côtés.
On pense quand même savoir qu'aujourd'hui, il faut quand même être armé quand on voit ces bombes quand même importantes.
Mais on sait que même les Turcs avaient arrêté les gens de Al-Nusra en 2013 à la frontière turque avec à la fois du gaz sarin et du chlore. On sait que les rebelles en ont. La Russie et les États-Unis, parce qu'il oublie de le préciser, le ministre, s'étaient portés garants de la fin des armes chimiques dans le gouvernement syrien. Donc on ne sait pas aujourd'hui. On réagit,
Bachar
nous, l'Occident.
Bachar du fait, hein, quand même. Hein.
Mais en fait, il y a une question quand même à laquelle il faudrait répondre. Quel intérêt aurait le gouvernement syrien à faire des attaques aux armes chimiques alors qu'un bombardement conventionnel, et pardon d'être aussi trivial, fait beaucoup plus de morts et beaucoup plus efficace en termes de morts.
On parle de punition aussi. Vous savez, voilà, il y a une punition aussi face à des gens qui
sont rebellés. Il y a beaucoup moins de morts, en l'occurrence, avec une attaque chimique qu'avec un bombardement. Donc, c'est quand même des questions auxquelles on répond de manière très émotionnelle, toujours très rapide. Et le fait est qu'on n'a pas de plan d'action et de plan politique pour la Syrie aujourd'hui. On est sorti du jeu, c'est très clair. Donc on réagit en hurlant et il ne se passe jamais rien.
Très rapidement, ouais,
les ONG comme Amnesty notamment parlent quand même de dizaines d'attaques au chlore menées par le régime syrien depuis.
Mais notamment. Il n'y a jamais eu aucune preuve, même l'ONU. Sur la première attaque, l'ONU a rendu un rapport disant qu'il ne pouvait pas dire, l'ONU, qu'il ne pouvait pas dire d'où ça venait. Donc moi je veux bien. On a aussi fait une guerre en Irak sur des fioles qui n'existaient pas. On l'a appris 10 ans plus tard.
Il y a quand même un peu plus de preuves sur.
Mais il y en a aucune. Alors sortez-moi, il y en a.
Quand
aucune.
Même un peu plus,
bon, en tout cas, on aura l'occasion de revenir dessus demain. Merci beaucoup, en tout cas, Audrey Signeux, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci, Jackie Isabello. La une de Ouest France demain.
Notre-Dame-des-Landes, évidemment.
Bien sûr. Et merci beaucoup, Charlotte Dornelas, également d'être passé.